Bac FM, il est 19h, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est aujourd'hui la journée internationale contre l'homophobie, mais également la transphobie et la biphobie. À Orléans, samedi, 1500 personnes étaient réunies dans les rues pour marcher ensemble contre les discriminations. Ces marches, que l'on appelle marches des fiertés, sont organisées dans de nombreuses villes. Elles sont destinées à donner une visibilité aux personnes homosexuelles, bisexuelles, queer, transgenres ou autres, et à revendiquer la liberté et l'égalité des orientations sexuelles et des identités de genre. Une marche des fiertés est organisée samedi 28 à Nevers, et pour en parler, pour expliquer l'organisation et surtout l'importance de cette marche, je reçois dans le studio de Bac FM Anna Zachman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes organisatrice de l'événement.
Oui, en partie, plusieurs citoyens et citoyennes. C'est pas vraiment un collectif, mais on s'est rassemblés entre plusieurs personnes pour organiser la marche.
Oui. On aura l'occasion d'en parler. Et Raphaël,
Bonjour. Salut,
t'es élève au lycée Alain Colas.
Oui, voilà.
C'est ça. La première marche des fiertés à Nevers, elle aura donc lieu samedi 28. L'envie d'organiser cet événement et de le mettre en place, est-ce que ça date d'il y a un petit moment et c'est enfin mis en place ou c'est arrivé comme ça ?
Ça date d'il y a plus d'un an et puis en fait on a commencé à réfléchir à ça en faisant le constat déjà qu'il n'y en avait jamais eu à Nevers et surtout qu'il y avait très peu de visibilité de la communauté à Nevers et dans les alentours.
Par rapport à d'autres villes de peut-être même taille que Nevers, où il s'est déjà organisé plusieurs manifestations.
Oui, et puis même au quotidien, en fait, de pas voir de personnes homosexuelles ou très peu dans la rue, dans les différents quartiers, bars, etc. De pas en connaître tant que ça, en fait. Et du coup, de se demander où sont ces personnes et de faire cet événement aussi pour se rencontrer et pour initier une démarche de visibilisation, quoi.
C'est l'envie de tous se rassembler pour enfin aussi se connaître, comme vous dites.
Oui, d'identifier les personnes qui peuvent être sources, les associations qui peuvent être sources aussi dans la ville et dans les environs. Et voilà. Et puis en fait, l'année dernière, c'était il y a un peu plus d'un an et c'était très peu. C'était, je pense, 2 mois avant juin, donc on n'avait pas le temps de l'organiser. Donc on s'est dit qu'on allait l'organiser un peu plus, pour l'année suivante, quoi.
C'est quoi l'importance d'organiser un événement comme celui-là ?
Eh ben déjà c'est d'occuper la rue parce qu'en fait pour aussi justement montrer que c'est des modèles de vie qui sont là, qui sont existants, qui sont souhaitables, qui sont chouettes, que les gens sont heureux et du coup parce que c'est souvent des modèles qui sont invisibilisés, donc c'est le fait d'occuper la rue, c'est le premier c'est ce qui est important, en tout cas la première chose c'est de justement le montrer publiquement, quoi, et l'assumer.
Et justement, occuper la rue, comment va se dérouler cette journée? Vous partez donc de la maison de la culture, donc on dit la maison mais c'est la maison de la culture, vous allez partir du parvis?
Oui, on part du parvis, on fait une déambulation dans Nevers avec des pauses pour les personnes qui ont plus de mal pour marcher, avec de la musique, et puis après on finit au parc Saint-Lingros où il y aura une prise de parole et où il y aura quelques stands d'associations, des éléments d'information et normalement quelques bières, et on pourra se poser, se rencontrer, discuter autour des questions, répondre aux personnes qui en ont besoin.
Et avoir des moments d'échange.
Voilà.
Les associations qui participent justement, c'est lesquelles ?
Alors, il y a Amnesty International et Ardis, qui est une association qui s'occupe de migrants, de personnes migrantes, et notamment pour des personnes qui ont des soucis dans leur pays par rapport à l'homophobie ou à la transphobie, etc.
Oui, parce qu'il y a des pays aussi où c'est encore très 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 compliqué là-bas d'assumer son appartenance sexuelle.
Oui, et d'ailleurs, c'est une aussi des... pourquoi faire une marche ? Donc c'est déjà la visibilisation. Après, c'est réclamer des lois qui puissent améliorer la vie des personnes LGBTQIA+, soutenir, être en solidarité aussi avec justement les pays où il y a des lois homophobes ou transphobes, etc. Et puis après, lutter plus généralement contre l'homophobie, la transphobie qui est générale dans la société, quoi. Voilà.
Justement, on parle de l'importance de cet événement, l'enjeu est grand. C'est lutter donc, comme vous le disiez, contre les discriminations qui sont liées à son appartenance sexuelle. Est-ce qu'il y a aussi le principe d'information envers les gens qui comprennent peut-être pas pourquoi vous faites un événement comme celui-là ?
Alors, on n'est pas spécialement dans l'informatif sur ce genre d'événement parce que... on suppose que c'est quand même quelque chose d'assez acquis pour les personnes qui viennent. Je pense pas qu'on ait envie de débattre sur, sur ce que c'est et sur si on a le droit ou non, parce que si on est né là-bas, c'est parce que on a le droit. Et non, c'est pas spécialement quelque chose d'informatif, mais c'est ouvert aux personnes qui sont pas dans la communauté et qui soutiennent juste.
Oui, bien sûr, oui, pour les moments d'échange, comme
oui,
vous
voilà.
le disiez.
Ouais. Mais faut avoir un minimum d'ouverture de base, quoi.
Oui, oui.
Mais voilà, c'est quand même mieux.
Oui, je pense que c'est mieux. L'homophobie, donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est la crainte ou le rejet des homosexuels, mais ce qui est compatible également avec d'autres appartenances sexuelles. Est-ce que c'est des choses, vous, que vous avez connues dans le milieu professionnel ?
Alors, moi, non. Personnellement, non. Bah, moi, je suis dans le milieu de la culture, et là, en ce moment, je travaille dans une association culturelle qui a une programmation très queer, donc avec déjà une ouverture d'esprit sur ça qui est très importante, et au contraire, qui lutte aussi pour une plus grande acceptation. Donc moi, personnellement, non. Après, je connais des personnes qui ont déjà vécu ça dans le milieu professionnel, y compris dans la culture d'ailleurs. Dans d'autres endroits, mais en tout cas moi j'ai la chance d'avoir un lieu qui est très ouvert.
Justement, ce lieu, pour en parler rapidement, c'est quoi ?
C'est une association culturelle, donc il y a à la fois un centre d'art qui s'appelle le Transpalette, une salle de concert qui est sans doute la plus connue dans la région, qui est le Nadir, et il y a aussi une salle de danse, une salle de spectacle, un laboratoire art et sciences. Enfin, en tout cas, c'est un lieu qui réunit plusieurs domaines artistiques et qui fait une programmation donc dans ces différents domaines et des résidences artistiques.
D'accord, voilà. D'accord. Oui, c'est un lieu de création d'art.
Oui, d'accord. De création, de recherche et de diffusion.
Je parlais du milieu professionnel, parce que donc, selon une étude qui est menée par l'IFOC pour l'association L'Autre Cercle, c'est une association qui a pour but l'inclusion professionnelle des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Au total, c'est environ 30 000 personnes qui ont été interrogées. L'étude révèle que 34% du panel ont été victimes de moqueries, remarques, voire même agressions. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quand vous entendez ça, est-ce que vous dites qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire sur ce sujet-là ?
Oui, mais oui, on le sait. Hein. C'est pour ça que je disais que moi, j'ai de la chance d'être dans un milieu professionnel où ce n'est pas le cas. Mais effectivement, je ne vois pas pourquoi ça changerait dans le milieu professionnel quand c'est tellement présent dans la société en général, y compris dès le lycée, dès l'école primaire même, toutes les étapes de la vie, en fait. Les insultes, elles sont quotidiennes.
Et justement, on viendra tout à l'heure sur cette période de lycée avec toi, Raphaël, qui a une expérience certainement avec ça. Mais oui, il faut que ça évolue, mais il y a quand même déjà eu une évolution, je pense, quand même, au fur et à mesure du temps. Mais c'est via des manifestations comme vous le faites que peut-être aussi les mentalités vont changer encore plus.
Oui, alors déjà, effectivement, les droits des personnes LGBTQIA+, elles se sont acquises avec vraiment beaucoup de militantisme. Et effectivement, déjà ces lois, elles sont pas forcément toutes complètes. Par exemple, la loi récente sur la PMA, déjà elle est encore, alors elle est récente, hein, mais elle est encore très peu accessible pour les personnes LGBT, enfin pour les femmes ensemble. Je crois, j'ai lu ça récemment, il me semble qu'il y a que 6 personnes qui ont pu y avoir accès actuellement depuis un an. Alors qu'il y a eu plus de 2000 consultations. Et par ailleurs, elle est toujours pas, c'est toujours pas pensé pour les personnes transgenres. Donc il y a encore du travail au quotidien. Et puis après, effectivement, malgré les lois, si les personnes n'osent même pas prendre la main de leur compagnon ou de leur compagne dans la rue parce qu'ils ont peur des agressions, évidemment qu'il y a encore du travail à faire.
Justement, il y a un sujet un petit peu politique qui tourne autour de tout ça. On sort d'une campagne présidentielle où beaucoup de sujets liés à des communautés, telles qu'elles soient, ont été débattus et défendus. Est-ce que vous trouvez, vous, que ça a été le cas pour la communauté LGBT ? Sujet très compliqué.
De toute façon, la communauté LGBTQIA+, est, on va dire, devenue un peu un sujet de société. Voilà.
Oui, c'est rentré dans le débat plus qu'avant. Quoi.
Mais c'est rentré dans le débat de manière bonne ou de manière mauvaise. Typiquement, dans le programme du RN, quand on voyait le mariage homosexuel qui voulait être enlevé, on prend ça comme une régression, quoi, comme quelque chose de super positif. Quoi.
Alors que c'était vu comme une évolution.
Oui, voilà, ouais. De remplacer ça par un PACS. En soi, le mariage, c'est pas quelque chose de spécialement important, mais c'est plus le fait d'avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles et cisgenres.
Justement, est-ce que c'est par des actions comme vous faites que vous aimeriez casser certains préjugés aussi ?
Bah oui, parce que quand on n'est pas dans la communauté LGBTQIA+, on comprend pas spécialement que les personnes LGBTQIA+, sont aussi des personnes totalement lambda, et que c'est pas spécialement écrit sur notre visage qu'on est LGBTQIA+, et qu'il y a, enfin, y a encore beaucoup de préjugés sur cette communauté, et voilà quoi.
Tout à l'heure, je vous ai demandé un titre de musique qu'on allait diffuser pendant l'émission. Vous m'avez dit Eddie de Preto Normal, pourquoi ?
Bah, c'est un artiste homosexuel qui se bat beaucoup pour les droits LGBTQIA+, et qui a du coup sorti ce son qui est un petit peu... ironique.
Mais avec une vraie profondeur quand même.
Oui, voilà, avec une vraie profondeur, mais très, quand même dans l'ironie et dans un message que je trouve assez beau.
Et bon, on l'écoute voilà. Tout de suite sur Black FM et on revient avec toi, Raphaël.
Ok.
Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je te crois sainte, t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à joues. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail. Que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon. Faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal. Complètement banal, je suis complètement normal. Je suis complètement malade, je suis complètement normal. Complètement banal, je suis complètement normal. Je suis complètement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis complètement malade. Je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis complètement malade. Si tu veux que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoulent. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal. Complètement banal. Tellement malade. Complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal.
Merci Raphaël d'être avec nous sur Bac FM.
Bah de rien.
T'as 16 ans.
Oui.
T'es en classe de première.
Oui.
T'es un élève transgenre.
Oui, voilà.
Est-ce que c'est compliqué d'afficher son homosexualité dans un lycée ?
Alors dans mon lycée, c'est pas compliqué parce que c'est quelque chose qui est assez ouvert comme sujet. Mais je sais que typiquement dans le lycée plus au banlieue, c'est un peu plus compliqué. Moi je suis à l'Incola, donc c'est un peu dans le cliché, mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui s'assument en tant que LGBTQIA+, et on est plus sur un rejet des personnes homophobes, transphobes et tout ça qu'un rejet des personnes LGBTQIA+, donc c'est vraiment cool, ça, par contre, enfin, sur ce point-là.
L'organisation de cette marche des fiertés samedi 28, elle compte beaucoup pour toi, mmh. J'imagine. Est-ce que c'est entre guillemets une manifestation aussi pour ton avenir ?
Oui, parce que je compte entamer un parcours de transition et je sais que pour l'instant c'est un peu compliqué en France au niveau de tout ça. Oui, puis aussi pour les droits à la PMA et à tout ce genre de choses en fait.
C'est quoi un parcours de transition ?
Un parcours de transition, c'est quand on est transgenre, c'est... Bah, typiquement transgenre FTM, donc female to male. C'est un parcours pour se réassigner dans son genre, c'est-à-dire par exemple couper ses seins ou se rajouter un pénis ou des choses comme ça, ou prendre de la testostérone ou des choses comme ça, mais chacun évolue dans son parcours de transition jusqu'à où il en a envie et c'est même pas obligatoire quand on est dans un parcours transgenre.
D'accord, on parlait tout à l'heure du milieu professionnel avec Anna.
Oui.
Toi, t'as déjà reçu des insultes ou des menaces dans ton milieu scolaire ?
Alors, moi, il faut savoir qu'avant d'être transgenre, je m'assumais en tant que femme bisexuelle au collège. Donc ça a été très compliqué, je me suis fait un peu harceler. Oui, je me suis déjà fait frapper, pousser, insulter. Je crois que même un jour, on m'a jeté de la nourriture au visage. Mais ouais.
Et quand c'est arrivé, comment t'as réagi ? Parce que maintenant, il y a beaucoup de numéros qui sont mis en place, beaucoup d'appels, mais c'est suite à des témoignages qui sont arrivés.
Ouais.
Comment t'as réussi à t'en sortir finalement ?
Je me suis fait hospitaliser en psychiatrie la dernière année du collège, donc je pense que ça avait quand même un petit lien. Je m'en suis pas sortie. Voilà, je suis juste, juste attendu que ça passe. Donc c'est pas la meilleure chose à faire. Hein. C'est pas des choses qui sont conseillées. J'en ai parlé à personne parce que je pensais que c'était pas important, mais ça l'est.
Et maintenant, tu t'assumes pleinement et ça se passe très bien.
Oui, ça se passe beaucoup mieux, oui.
Et tous les gens autour de toi sont ouverts à ça. Enfin, tes amis, je parle d'école, sont ouverts à ça.
Oui, il y a une certaine ouverture et aussi une certaine hypocrisie, mais il y a une certaine ouverture.
Tu as déjà assisté à des ateliers de prévention, de sensibilisation aux violences injures envers certaines communautés dans ta scolarité ? Parce que on sait que le gouvernement met beaucoup ça en avant, mais il y a quelque chose qui revient, c'est que c'est pas souvent fait. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'assister à des ateliers là-dessus ?
Alors, ils font une petite partie quand on fait de l'éducation sexuelle sur le fait qu'il faut pas être homophobe et qu'il faut pas être transphobe, mais c'est vraiment vite dit. J'avais monté un atelier en quatrième dans mon collège pour contre ça, ouais, du coup. Et ça n'avait pas été très concluant vu que les gens de mon collège n'étaient pas très ouverts sur ça.
L'État, il met à disposition des centres d'appel pour élèves et personnel d'établissements scolaires qui seraient victimes ou témoins de violences injures. Et pourtant encore, semaine dernière, un jeune élève du Mans qui était transsexuel s'est donné la mort en sautant du troisième étage de son lycée. Je sais pas si t'en as entendu parler.
Oui, j'en ai entendu parler.
Est-ce que ça montre qu'il y a un accompagnement à intensifier pour permettre à certains de parler au lieu de tout garder pour eux et du coup ça te concerne aussi un petit peu ?
Juste le terme transsexuel, il est pas utilisable. Parce que transsexuel, c'est le terme qu'on utilisait en psychiatrie pour... Enfin, c'était signifié comme une maladie, donc
d'accord.
Voilà, c'est enfin juste l'utilisez pas au quotidien parce que c'est pas très plaisant comme terme.
Pour spécifier aussi le transsexuel, c'est justement aussi parce que enfin en plus de ce que vient de dire Raph, c'est que du coup les personnes qui sont transgenres, elles peuvent se définir dans un autre genre que celui qui est assigné à la naissance, sans pour
d'accord.
autant vouloir changer de sexe. Donc il y a aussi cette identification qui n'est pas vraiment très juste dans la réalité des personnes transgenres.
D'accord, ok.
Et dans ce que disait Raph tout à l'heure aussi sur le parcours de transition, du coup ça peut, pour les personnes qui n'ont pas envie de faire une opération et du coup de changer de sexe, ça peut aussi passer... par juste un changement d'état civil,
oui, voilà.
Donc un changement de prénom et un changement de genre sur l'état civil.
Mais après, on parle aussi beaucoup du transgenre binaire. Donc, par exemple, moi, je suis transgenre binaire, c'est-à-dire je suis un homme.
D'accord.
Une femme transgenre, c'est du coup une femme. Mais il y a aussi le transgenre non binaire qui est un spectre beaucoup plus élargi. C'est des personnes qui ne se reconnaissent pas dans un genre qui soit homme ou femme.
D'accord. Et donc... Donc ma question qui était mal posée finalement.
Non, mais il n'y a pas de souci, j'ai juste pas compris en fait.
Donc en fait j'aurais dû remplacer le terme que j'ai mis par transgenre.
Oui,
en fait,
c'est pas mal.
Oui, oui, je comprends bien la différence. Mais du coup ma question elle est là. Est-ce qu'il faut intensifier encore plus est-ce qu'il faut encore la parole et permettre à ces élèves-là de parler encore plus et de leur apporter des solutions justement.
Moi je pense que oui. Après, je vis pas de violence dans mon lycée, donc je vois pas la violence transphobe de la même façon. Mais oui, enfin, on n'en est pas au premier cas, on n'en sera sûrement pas au dernier, et c'est horrible. Des personnes qui se donnent la mort à cause de la transphobie, ça arrive très régulièrement, et on en parle presque jamais dans les médias, parce que c'est juste quelqu'un qui avait des problèmes mentaux ou des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont très vite assimilables à des problèmes mentaux ou à des choses comme ça. Et c'est pas la transidentité qui tue, en fait, c'est la transphobie. C'est le regard qu'on porte, les moqueries qu'on porte, les agressions qu'on porte, en fait, face aux gens. C'est difficile de s'assumer et quand on commence à s'assumer et qu'on se prend des trucs horribles dans la gueule, je pense que ça pousse pas au positif, quoi.
Et c'est assez... Enfin, c'est pas contradictoire ce que tu dis, mais quand tu dis que, justement, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, alors que ce sujet... est un sujet qui est vachement plus présent maintenant dans les médias, mais pas dans le sens où on dénonce les suicides. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a aussi beaucoup de séries qui arrivent, justement, sur ce sujet. On voit beaucoup sur Netflix des Sex Education, tout ça. C'est des séries qui permettent, je pense, aussi aux jeunes d'assumer leur sexualité encore plus.
Oui, moi, je suis un petit peu d'accord sur ça. Après, par rapport aux médias, on en parle surtout sur les réseaux sociaux. Typiquement sur Twitter, il y a une communauté LGBTQIA+, qui est... à mon goût assez safe, dans les médias type BFM TV ou des choses comme ça, c'est jamais des choses qui sont positives. C'est toujours on est toujours considérés comme des grands marginaux.
C'est ça, en fait, c'est jamais débattu vraiment dans le bon sens. Je comprends.
Ouais. C'est encore en train de parler du pronom IL alors qu'il est rentré dans le dico, quoi.
Oui, c'est vrai. Et c'est aussi un engagement que de plus en plus de personnalités affichent. Je pense à Angèle, à Beyoncé, qui soutient énormément la communauté LGBT dans leur son. Et le milieu du sport aussi. Ce week-end, par exemple, sur les terrains de football, les flocages des joueurs étaient aux couleurs multicolores du drapeau LGBT. Est-ce que c'est une marque d'espoir pour vous aussi ?
Une marque d'espoir. Alors oui, je pense que un petit peu, mais il y a aussi pas mal de queer washing, c'est-à-dire le queer washing, c'est par exemple mettre des éléments LGBT un petit peu partout pour attirer la communauté LGBT.
La publicité.
Oui, c'est de la publicité un peu visée pour les LGBT et encore argumentée dans le capitalisme, quoi.
Oui, sans vraiment vraiment appliquer dans le milieu sportif d'interdire en tout cas de faire attention quand il y a des propos homophobes, de bien réagir, etc. Et d'ailleurs, il me semble que il y a un des footballeurs qui a pas accepté de jouer pour le PSG.
Il y a un joueur du PSG qui a refusé de jouer ce week-end-là. Et il n'y a pas eu trop de discussions autour parce que tout le monde pensait que c'était un souci personnel qui aurait pu avoir lieu. Mais ils se sont rendus compte que déjà l'année dernière, à exactement la même date, au même moment, il avait refusé de jouer aussi. Et ils se sont rendus compte que c'est parce qu'il ne voulait pas défendre cette cause. Exactement. Oui, oui.
Voilà. Donc un petit espoir, mais pas énorme, quoi.
Mais le milieu du sport, qui est un milieu où c'est compliqué aussi d'afficher des fois juste son homosexualité, a fait un grand pas en avant. Il y a beaucoup de langues qui se délient et beaucoup de personnalités publiques sportives qui prennent la parole et qui défendent aussi cette cause.
Oui, mais le milieu du sport, c'est comme dans tous les milieux, des homosexuels, des transgenres, il y en a.
Oui, bien sûr.
Le truc, c'est que c'est pas assumé parce que c'est quelque chose que les gens ne trouvent pas assumable.
Si on revient sur la marche des fiertés que vous organisez le 28, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs qui n'osent peut-être pas encore venir et qui auraient entièrement leur place ?
Juste, ça va être bonne ambiance, ça va être cool. C'est pas spécialement, on n'est pas obligé d'être politisé pour venir, on n'est pas obligé de quoi que ce soit. En fait, on n'oblige personne à quoi que ce soit. Et s'il y a des personnes qui s'assument pas, on n'est pas obligé de les assimiler à la communauté. Et voilà quoi. Ça va être sympa. Il n'y a pas de raison de ne pas venir.
Et c'est à 15h sur le parvis de la maison.
Voilà.
C'est ça. Et puis donc après, comme je disais tout à l'heure, on va se retrouver au parc. Et à la fin, pour ceux et celles qui veulent, il y aura une soirée à la Charité sur Loire au Tips, donc qui est un bar plutôt gay. Et donc qui commencera à 21h30 jusqu'à... Voilà. Et puis,
jusqu'à pas d'heure.
Voilà. Donc il y aura des covoiturages, je pense, qui vont s'organiser pour les personnes qui n'ont pas de voiture.
On peut suivre toutes les infos sur Facebook ?
Oui.
Sur Facebook.
Et puis sur Instagram.
Oui, un peu sur Instagram aussi.
Merci Yana et Raphaël, merci pour votre témoignage. On se quitte avec un son, est-ce que vous l'avez choisi? Parce que je sais que vous avez
sans contrefaçon, je suis un garçon pour faire un peu plus vieux.
Allez. Donc je vous demande pas pourquoi ce titre. Est-ce qu'elle fera partie de la fameuse playlist de
oui.
La Marche?
Oui, évidemment.
Parce que j'ai vu hors antenne qu'il y avait une playlist.
Alors il y a une playlist que j'ai moi-même composée. Il y a une playlist qu'on passera dans La Marche et j'ai essayé de mettre des musiques représentatives de la communauté. Et donc il y a celle-là dedans, effectivement.
Et ben donc on se quitte avec Mylène Farmer.
D'accord.
Et Bac FM, vous restez à l'écoute du 106.1, le meilleur du son pop-rock. Et moi je vous dis à demain, bye.